Une crise constitutionnelle frappe la Papouasie-Nouvelle-Guinée de décembre 2011 à juillet 2012. Elle oppose deux hommes, Peter O'Neill et Sir Michael Somare, qui affirment tous deux être le premier ministre légitime du pays, l'un soutenu par le Parlement, l'autre par la Cour suprême. Elle soulève la question de savoir qui a, in fine, le pouvoir de reconnaître un premier ministre et met également en question les modalités du rôle du gouverneur général. Bien que la crise se soit concentrée sur quelques jours de la mi-décembre et se soit soldée par le maintien de facto au pouvoir de Peter O'Neill, elle continua à avoir des répercussions, Somare ne s'avouant pas vaincu. Ainsi, le 26 janvier, elle entraîna une brève mutinerie dans les forces armées du pays. La crise s'acheva fin juillet 2012, suite aux élections législatives qui donnèrent un net avantage à O'Neill. S'avouant vaincu, Somare, à la surprise générale, soutint O'Neill pour le poste de Premier ministre. Les deux hommes annoncèrent qu'ils formeraient un gouvernement de coalition. Section 1. Contexte, système politique. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est une démocratie multipartite et un royaume du Commonwealth. C'est un État pleinement souverain dont la Constitution reconnaît la reine Élisabeth II comme monarque, celle-ci déléguant ses fonctions à un gouverneur général élu par le Parlement, lui-même élu au suffrage universel. En accord avec le système de Westminster, le Premier ministre est un député choisi pour cette fonction par ses pairs. Il gouverne tant qu'il dispose de la confiance d'une majorité au Parlement. Les fonctions du gouverneur général sont essentiellement symboliques. C'est le Premier ministre qui gouverne la nation. L'article 142.2 de la Constitution dispose que le Premier ministre est nommé, citation, par le chef de l'État qui agit en accord avec une décision du Parlement. Fin de citation. Constitutionnellement, les pouvoirs conférés au chef de l'État le sont à la reine, mais en son absence, puisqu'elle réside à Londres, ils sont exercés par le gouverneur général. Depuis son indépendance en 1975, cet ancien territoire australien a vu se succéder divers partis et coalitions au pouvoir de manière paisible et démocratique. Il y règne néanmoins une grande instabilité politique. Les gouvernements sont constitués de larges coalitions qui le plus souvent se disloquent en cours de législature. Pour autant, la seule crise politique conséquente eut lieu en 1997, lors de l'affaire Sandline. En 1996, le Premier ministre Julius Chan, tentant de soumettre la révolte menée par l'armée révolutionnaire de Bougainville, dans la province de Bougainville, signa un contrat avec une société militaire privée, Sandline International. En mars 1997, suite à la révélation de ce contrat, le brigadier général Jerry Singerok, chef des forces de défense de Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est-à-dire les forces armées régulières, dénonça l'accord et somma Chan de démissionner. L'opinion publique semblait soutenir le brigadier. Chan quitta temporairement ses fonctions, le temps d'être blanchi par une commission d'enquête, avant de les reprendre en mai. En juin, il fut battu lors des élections législatives et quitta le pouvoir sans heurts. Les actions de Singirok furent néanmoins qualifiées de quasi-coup d'État. Section 2. Déroulement des faits. Le grand chef Sir Michael Somare, père de l'indépendance, qui avait remporté les élections législatives de 2002 et de 2007, fut hospitalisé en avril 2011 à Singapour, où il fut opéré du cœur, puis demeura en soins intensifs pendant plusieurs mois. En juin, alors qu'il est incapable de s'exprimer par lui-même, sa famille annonce la fin de sa carrière politique. Sam Abal assure la direction du gouvernement par intérim. Le 2 août, le président du Parlement, Jeffrey Nape, déclare que Somare, toujours hospitalisé, n'est plus député pour cause d'absentéisme et que la fonction de Premier ministre est donc vacante. Le Parlement procède à l'élection d'un nouveau Premier ministre, Peter O'Neill. Somare revient en Papouasie-Nouvelle-Guinée en septembre, amaigri et frêle, mais alerte. Le 12 décembre, la Cour suprême juge que la déclaration de vacances du 2 août est dénuée de fondement constitutionnel et ordonne que Somare soit restauré à ses fonctions. Plus précisément, la Cour explique que les circonstances dans lesquelles peut être prononcée une vacance du poste de Premier ministre sont définies par la Constitution et qu'il n'est pas loisible au président du Parlement de décréter une telle vacance en dehors des procédures constitutionnelles. La Cour suprême ajoute que seule la Cour nationale peut prononcer la vacance d'un siège de député et que Michael Somaret n'avait par ailleurs été absent qu'à 2 séances parlementaires, ce qui ne peut entraîner la vacance de son siège. Le gouverneur général, Sir Michael Audio, nomme donc Somaret au poste de Premier ministre. Disposant du soutien d'une majorité au Parlement, O'Neill refuse de quitter ses fonctions et le 14 décembre, le Parlement destitue Audio. Jeffrey Nape, président du Parlement, devient alors automatiquement gouverneur général par intérim. Quelques jours plus tard, lorsqu'il apparaît clair que Somaret n'a que peu de soutien, Augio déclare que les conseils de la Cour suprême avaient été erronés. Restauré à son poste de gouverneur général le 19 décembre, il reconnaît à nouveau Peter O'Neill. Ce dernier continue à gouverner, avec le soutien des hauts fonctionnaires, des forces de police et des forces armées. Le 18 janvier, Somaret, accompagné de ses partisans, entre dans l'enceinte du Parlement, brandissant l'arrêt de la Cour suprême et exige d'être restauré à son poste. Il est contraint de quitter les lieux. Le 26 janvier, le colonel Yaora Sassa, retraité, à la tête d'une vingtaine de soldats, s'introduit dans un camp militaire, dont il prend le contrôle sans faire de victime, et place le général de brigade Francis Agui, chef des armées, en détention dans son logement. Deux autres militaires sont également détenus. Sassa affirme avoir été nommé à la tête des armées par Michael Somaret, qu'il reconnaît comme Premier ministre légitime. Au nom du respect de la Constitution et des tribunaux, il somme le chef de l'État de nommer Somaret à la tête du gouvernement, faute de quoi il entreprendra, citation, « les actions qui seraient nécessaires ». Fin de citation. Le Premier ministre australien, Julia Gillard, réagit en déclarant que les forces militaires n'ont pas à exercer de rôle politique et appelle à une résolution pacifique de la situation. Quelques heures plus tard, le Premier ministre Peter O'Neill annonce que la mutinerie est terminée et qu'Agui a été relâché. S'adressant aux médias, le vice-premier ministre Belden Nama s'en prend en ces termes à Somaret. Je cite « Vous avez perdu la tête. Vous avez complètement perdu le contrôle de vous-même. Vous avez perdu la tête. Vous êtes devenu fou. » Fin de citation. Il s'agit de la première mutinerie dans l'histoire du pays. Le lendemain des événements, Michael Somaret et son ministre de la Défense, Andrew Combacor, s'expriment tous deux pour confirmer qu'ils ont bien nommé Sassa à la tête des forces armées. Somaret explique qu'il tente ainsi d'exercer ses fonctions de Premier ministre légitime. Dans le même temps, Peter O'Neill suspend son ministre de la Défense, Guma Wau, et transfère les fonctions de celui-ci au vice-premier ministre Belden Nama, un ancien capitaine d'armée qui avait participé aux événements de l'affaire Sandline et avait, à sa suite, purgé près de 6 ans de prison pour sédition, entre 1997 et 2003. Le 28 janvier, le colonel Sassa est arrêté à Boroko, banlieue de Port Moresby. Il est traduit devant un tribunal et inculpé pour mutinerie. Les hommes qui avaient opéré sous son commandement ne sont pas inculpés. Début février, le gouvernement O'Neill suspend le président de la Cour suprême, Sir Salamo India, l'accusant de faute professionnelle. Le gouvernement affirme que cela n'est en rien une conséquence du jugement prononcé par India et la Cour en décembre. Début mars, India est arrêté et mis en examen pour entrave à la justice. La Cour nationale suspend cette mise en examen, la décrivant comme un abus de procédure. India demeure président de la Cour suprême. Le 20 mai, un mois avant la tenue d'élections législatives, la Cour suprême de Papouasie-Nouvelle-Guinée ordonne à nouveau que Sir Michael Somaret soit restitué au poste de Premier ministre, au motif que sa destitution s'était faite de manière non constitutionnelle. L'arrêt est rendu par 3 juges sur 5, les deux autres refusant de se prononcer. Peter O'Neill refuse de se plier à ce jugement, déclarant que les juges ont agi au mépris de la séparation des pouvoirs et citant une lettre d'un des juges à un autre, décrivant son gouvernement comme illégitime. Selon O'Neill, les juges étaient donc biaisés. Lorsque Michael Somaret tente de se rendre auprès du gouverneur général pour être formellement reconnu comme Premier ministre, la police lui barre la route. Le gouverneur général, Sir Michael Audio, fait savoir qu'il ne procédera à aucune investiture de Premier ministre avant les élections. Le vice-premier ministre Belden Nama ordonne aux 3 juges, Sir Salamo India, Lesgaveranu et Nicolas Kiriwam, de démissionner immédiatement, faute de quoi il serait arrêté pour sédition. Le 24 mai, Beldennama pénètre dans les locaux de la cour, accompagné par la police, et fait arrêter le président de la Cour suprême, Sir Salomo Inja, pour sédition. Quelques jours plus tard, le juge Nicolas Kiriwam est lui aussi arrêté pour sédition. Nama décrit Inja comme un malade mental qui, citation, joue à faire de la politique. Le 29 mai, le vice-président du Parlement, Francis Marous, ouvre une session parlementaire en reconnaissant le jugement de la Cour. Somare et non O'Neill est le Premier ministre, dit-il. Toutefois, ajoute-t-il, Somare ne peut être Premier ministre puisqu'il n'est plus député, ayant été disqualifié de cette fonction pour avoir manqué plusieurs sessions du Parlement. En conséquence, il n'y a pas de Premier ministre en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Visiblement surpris, O'Neill, qui n'est pas sur place à ce moment-là, se précipite pour rejoindre le Parlement et s'entretenir avec les députés de sa majorité. Il annonce ensuite que le Parlement procédera à l'élection d'un Premier ministre le lendemain. Pour sa part, Michael Somare estime cette déclaration de vacances illégale et honteuse. Lui-même surpris, Marous agissait sur instruction de Jeffrey Naib, qui, au passage, dénonce une nouvelle fois la tenue d'élections programmées, malgré la volonté des parlementaires de les retarder. Le 30 mai, seuls les députés de la majorité choisissent d'être présents pour le vote. Marous tente tout d'abord, suivant les instructions de Naip, d'interdire à O'Neill de se présenter, au motif qu'il serait co-responsable avec Somare de la crise, puis capitule, l'autorisant à postuler. Le Parlement élit à nouveau O'Neill au poste de Premier ministre. S'ensuit une nouvelle confusion lorsque Jeffrey Naip, exerçant les fonctions de gouverneur général en l'absence de Sir Michael Odio, qui est à Londres pour le jubilé de diamant de la reine Elizabeth II, reine de Papouasie-Nouvelle-Guinée, annonce qu'il retarde l'investiture du Premier ministre afin d'étudier les documents. 3 heures plus tard, l'investiture a néanmoins lieu. O'Neill est Premier ministre en attendant les élections législatives. Michael Somare réaffirme néanmoins qu'il se considère toujours comme le Premier ministre légitime. Section 3. Rôle du chef de l'État. La reine de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Elizabeth II, n'intervient aucunement dans la crise. En cela, elle se conforme à son rôle traditionnel de non-ingérence dans les affaires internes des royaumes du Commonwealth. Elle n'était nullement intervenue non plus dans la crise constitutionnelle australienne de 1975. Dans le cas australien, elle n'avait pas été consultée par le gouverneur général, Sir John Kerr, et rien n'indique que Sir Michael Ogio, le gouverneur général de Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'ait consultée non plus. Ce dernier se vit contraint de décider s'il devait se plier aux injonctions de la Cour suprême ou bien respecter la volonté du Parlement, cas inédit. Sa décision première, d'obéir à la Cour, fut sans effet lorsque le Parlement usa de ses pouvoirs pour le suspendre et lui substituer un gouverneur général par intérim. Section 4, suite. Les élections législatives se déroulèrent sur 2 semaines à partir du 23 juin 2012. Sir Michael Somare fait savoir début janvier qu'il n'y prendra pas part, mettant ainsi un terme à sa carrière politique. Il se considère néanmoins toujours comme le Premier ministre légitime jusqu'à l'élection. Il décide par la suite d'être candidat malgré tout, dans sa circonscription du Sepik oriental. Immédiatement après la mutinerie du 26 janvier, Peter O'Neill annonce qu'il envisage la tenue d'élections anticipées le plus rapidement possible pour mettre fin à cette impasse politique. Cette possibilité est toutefois écartée et les élections débutent le 23 juin. Le 3 août, alors que les résultats des élections ne sont pas encore connus dans 3 des circonscriptions, le Parlement s'assemble et les députés confirment Peter O'Neill au poste de Premier ministre avec 94 voix. Dans un retournement de situation, son rival, Sir Michael Somare, lui avait aussi apporté son soutien fin juillet, les deux hommes annonçant la formation prochaine d'un gouvernement de coalition. Fin de l'article.